L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique. Avec lui, nous parlerons de la place des drones dans les conflits militaires et de leurs applications civiles. À tout de suite. Depuis le 24 février 2022, date du début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la rupture opérationnelle induite par l'utilisation de drones ne fait que se confirmer sur le champ de bataille. Les États-Unis en ont déjà fait usage en Afghanistan et en Irak, dont des assassinats ciblés. Néanmoins, c'est entre 2019 et 2020 que les effets tactiques et psychologiques des drones ont été observés avec force et à plusieurs reprises en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh. En effet, sur ces trois derniers théâtres, il a été constaté que les drones pouvaient constituer une aviation légère de substitution face à un adversaire conventionnel. Aussi, la mise en œuvre de concepts opérationnels d'emploi adaptés a contribué au succès militaire des systèmes sans pilote. Leur association à des systèmes de guerre électronique et antiaérien a également permis aux drones, relativement vulnérables au brouillage et au système sol-air, d'infliger des pertes importantes. Peut-on considérer le drone comme une arme stratégique capable de faire basculer l'issue d'un conflit de haute intensité? Réponse avec mon invité, Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Saint-Syrien et officier parachutiste, il est l'auteur de la Nouvelle Grande Russie et de l'Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Xavier Moreau, bonjour et merci de nous avoir honorés avec cet entretien.
Bonjour.
Bien, alors ma première question, quelle est la place des drones, aussi bien de reconnaissance que d'attaque, dans la conduite des combats dans une guerre de haute intensité moderne? Est-ce que c'est vrai, comme disent beaucoup de médias, on peut renverser le résultat ou l'issue d'une guerre avec un drone?
Non, c'est pas vrai. Je pense que, en fait, les médias ont été impressionnés par ce qui s'est passé pendant le conflit au Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a un an et demi. Et en fait, effectivement, ça a donné à l'Azerbaïdjan donc l'utilisation des drones Bayraktar, ça leur a donné un avantage qui a été, je dirais pas décisif, mais qui a été déterminant pour la victoire de l'armée azérie sur l'armée arménienne.
Pour rappel,
le Haut-Karabakh est une région contestée située à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques. Le 2 septembre 1991, la république autoproclamée du Haut-Karabakh y est apparue. La même année, les hostilités ont commencé dans la région, faisant de nombreuses victimes des deux côtés. Un accord sur un cessez-le-feu complet et une résolution de la situation n'a pu être obtenu qu'en 1994. Toutefois, à la fin du mois de septembre 2020, les hostilités ont repris dans le Haut-Karabakh. Un mois et demi plus tard, sous la médiation de Moscou, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont accepté un cessez-le-feu complet et un échange de prisonniers et de corps. Erevan a également cédé à Bakou certains territoires qui étaient sous le contrôle de la République du Haut-Karabakh. En outre, des soldats de la paix russe sont stationnés dans la région.
Et le problème, c'est que ça, les raisons de cette suprématie, ce côté déterminant, n'ont pas été analysées sérieusement. Enfin, ça a été analysé par quelques experts, mais pas ceux qu'on invite sur les plateaux de télé. Et là, c'est qu'en fait, c'est une arme du fort au faible. Ça a marché contre l'Arménie parce que l'Arménie avait une DCA très limitée. Elle a fait des mauvais choix, notamment en voulant privilégier certains systèmes qu'elle avait elle-même développés et qui n'étaient pas au point. Et ensuite, parce que, eh bien, elle, l'Arménie était incapable d'aligner le même matériel face à l'Azerbaïdjan. Donc, qui a bénéficié, donc ces drones, les fameux Bayraktar, qui sont fabriqués en Turquie. Donc, ils sont en fait un assemblement de, et ça c'est important de le savoir, c'est un assemblement de sous-ensembles qui sont importés, essentiellement des pays occidentaux, Canada, États-Unis, Allemagne, Angleterre, je crois aussi. Donc, en fait, c'est une production bien faite, hein, turque, mais il y a beaucoup de sous-ensembles. Et notamment, ça a posé un problème à la Turquie, puisque comme il y a des fortes minorités arméniennes, par exemple au Canada, les Canadiens ont voulu commencer à mettre un embargo sur ces sous-ensembles. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Et puis, de toute manière, le conflit dans Nagorno-Karabakh est gelé, on va dire, actuellement. Et les Bayraktar ont été réorientés vers l'Ukraine. Et les Ukrainiens, les Kieviens, et sans doute les conseillers militaires occidentaux, étaient persuadés que ce serait également un système qui permettrait de changer la donne. Or, ça a été, on va dire, une des grandes déceptions sur le matériel qui a été livré par les Occidentaux. Il y a eu un des responsables ukrainiens, qui je crois est du ministère de la Défense, je ne sais plus, mais qui a été piégé par des canulars téléphoniques russes qui s'appellent Lexusevova, ouais. Et dans lequel, voilà, il dit en fait le Bayraktar, ça sert à rien, c'est nul. Et en fait, c'est pas vrai. Le Bayraktar, c'est pas que ça sert à rien, c'est simplement ça sert si vous avez la domination sur l'adversaire. C'est-à-dire que dans un conflit comme le conflit ukrainien, à la limite, c'est les Russes qui pourraient déployer des Bayraktar, parce que les Russes ont la supériorité aérienne, ils ont une DCA échelonnée sans équivalent au monde, et ils ont des avions, donc eux peuvent détruire très facilement les Bayraktar ukrainiens ou l'équivalent des Bayraktar, alors que les Ukrainiens auront beaucoup plus de mal. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que même si un Bayraktar, c'est moins cher qu'un avion de chasse, c'est quand même 5 millions de dollars pièce. Donc, quand vous vous faites abattre un objet de 5 millions de dollars, c'est une grosse perte. Mmh. Et c'est facile à abattre parce que c'est très lent. C'est un système subsonique. Et donc, en fait, les Russes ont fait une véritable hécatombe, d'autant plus qu'ils avaient appris à combattre ces drones turcs en Syrie. Et donc, ils n'ont pas du tout été surpris. Et même s'il y a eu effectivement quelques succès, notamment au début, mais bon, rien de vraiment, rien en tout cas qui a changé la donne, ça a été, on peut dire, la grande déception. En revanche, il y a une autre manière d'utiliser les drones qui a été vraiment décisive, à mon avis. Alors, bon, pas décisive, il n'y a rien de vraiment décisif, qui a été déterminante, on va dire, et ce sont deux types de drones. Les premiers drones qui ont percé à ce moment-là, c'est, disons, trois types de drones, pour être précis. Ce sont les drones iraniens, ou en tout cas d'origine iranienne, les Geranium, Garan en russe, ou les Shahid, je crois, en iranien, et qui sont des drones qui sont préprogrammés, donc qui ne sont pas guidés. Ils sont préprogrammés sur une cible, et donc ce qui fait qu'ils peuvent pas être brouillés, puisque une fois que vous les avez rentrés, vous pouvez pas les diriger. Il y a pas de caméra, ils vont droit sur la cible. Et donc ce sont des drones extrêmement bon marché. On parle autour de 10 000 $, entre 10 000 et 20 000 $ pièce, donc ce qui est rien. Ce sont des drones suicides avec une grosse charge explosive. Je crois que ça emporte plus de 50 kilos d'explosifs. Donc ça, avec ça, vous pouvez faire quelque chose. Ces drones donc sont programmables et ont servi aux Russes pour leur frappe stratégique dans la profondeur du territoire ukrainien. Et ça, couplé avec les missiles calibre russe, avec toute une variété de missiles que les Russes utilisent, en fait, ça rend fou la DCA ukrainienne, qui est complètement impuissante, puisqu'elle doit à la fois affronter des drones qui volent à basse altitude, avec un boucan de tondeuse à gazon, mais pour lequel elle n'a pas vraiment de système anti-aérien adapté, ou alors des systèmes aériens qui coûtent extrêmement cher, qui coûtent des centaines de milliers de dollars le tir, et donc que vous allez utiliser pour un drone. De toute manière, vous en avez à chaque fois des dizaines qui arrivent en même temps. Donc en fait, vous dépensez vos systèmes anti-aériens. En plus, du coup, les Russes les détectent, ces systèmes anti-aériens, et la deuxième vague en fait va frapper ces systèmes anti-aériens. Et là encore, il y a eu, je regardais aujourd'hui les informations, il y a encore eu un avion ukrainien qui a été abattu par sa propre DCA en essayant de faire la chasse au drone qui était envoyé.
D'accord.
Donc ça a été un emploi c'est le genre de matériel que moi j'aime bien, parce que je suis pour une vision rustique des équipements. Donc c'est un matériel qui peut être fabriqué massivement, peu cher, avec un moteur chinois, encore une fois, de tondeuse à gazon, et qui fait le travail, et donc qui est surtout contre lequel on aligne des équipements occidentaux hors de prix. Et ça, c'est aussi une des révélations plus larges du conflit, c'est-à-dire que les Occidentaux ont fourni des équipements
hors de prix. Mais par rapport à ce que vous venez de développer, M. Moreau, Donc, si j'ai bien compris, les drones peuvent être des armes d'appoint dans un conflit de haute intensité, mais ce ne sont pas une arme stratégique capable de provoquer des destructions de masse massives comme l'artillerie, comme les missiles de croisière ou balistiques.
Tout à fait. Et là, on en vient à l'autre catégorie de drones qui sont les drones suicides. Donc, notamment, celui qu'on a le plus vu, c'est le Lancet. Les Américains en ont livré, mais je ne sais plus comment il s'appelle, leur Phoenix, je crois. Mais ça s'est avéré pas très cher, comme d'habitude, et pas très efficace. D'ailleurs, on n'en entend plus parler. En revanche, les Russes avaient développé, eux, un drone électrique qui s'appelle le Lancet, qui amène une charge relativement modeste de 6-7 kilos d'explosifs. Sur une distance de 70 km et qui a donné d'excellents résultats, sachant que bon, il y a eu beaucoup d'images qui ont été montrées. Maintenant, quand ça s'abat sur un véhicule blindé, ça doit pas lui faire grand mal, mais ça peut taper sur les organes de visée d'un char, sur les munitions, une soute à munitions. Dans quel cas là, le char explose ou le système d'artillerie ou les donc voilà. Et ça, surtout, c'est du drone de harcèlement, et ça a montré des résultats, mais comme vous venez de le dire, c'est pas non plus, hein, comme disent les Américains, un game changer. C'est pas du tout ça. C'est un appoint. C'est un peu comme vous aviez pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez des unités spéciales qu'on appelait les sorcières de la nuit. C'était des pilotes féminins qui volaient dans des biplans la nuit sur la ligne allemande et qui balançaient des bombes. Et donc ça ruinait le moral des Allemands. Et c'était du bombardement de harcèlement, mais évidemment que c'est pas ça qui a fait gagner la guerre. Mais c'était quelque chose qui se rajoutait au reste. Et enfin, à mon avis, ce qui a été le plus intéressant, ça a été l'utilisation de drones civils de type Magic 2 pour la reconnaissance, donc pour également des petits bombardements dans les lignes de tranchées de précision. Mais c'est pas ça que je retiendrai le plus, parce que là, pareil, encore une fois, larguer des grenades, c'est pas ça qui va. C'est du harcèlement, c'est pénible, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Mais en revanche, qui sert au tir d'artillerie. Et donc, vous voyez maintenant, et notamment les Russes ont développé immédiatement des écoles de pilotes de drones. Donc, dans toutes les unités d'artillerie, d'infanterie, de chars, vous avez des opérateurs de drones qui coordonnent les tirs, non seulement de l'artillerie, mais la progression de l'infanterie. Et également qui permettent aux chars de tirer au-delà de la vue, au-delà de leur visée. C'est-à-dire qu'un char peut tirer au-delà de la ligne d'horizon qu'il observe. Et c'est un tir qui existe, mais qui était très peu utilisé parce que les tankistes considèrent que c'est une perte de munitions et de temps. Mais là, maintenant, en fait, les opérateurs de drones peuvent diriger des tirs au-delà de l'horizon avec les chars. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de totalement innovant. Et ceux qui ont le plus développé ça, en fait, ce sont les Russes. Et paradoxalement, au début, c'est quelque chose qui a été amené sur le champ de bataille plutôt par les Ukrainiens, enfin en gros par les Américains, qui avaient tiré pas mal également d'expérience de l'Azerbaïdjan. Mais très rapidement, les Russes ont pris le relais, et surtout, toute la société civile russe s'est cotisée pour offrir des drones. Et donc, moi, j'ai vu ça dans le Donbass. Vous avez des stocks de drones Magic 2, parce qu'il y a quand même des pertes, forcément. Surtout qu'en plus, en hiver, les batteries se vident plus rapidement, etc. Donc, il y a des pertes. Mais par rapport à un drone qui coûte 5 millions de dollars, comme le Bayraktar, c'est pas du tout le même niveau de perte. Et ça en vaut la chandelle. Parce que l'efficacité de l'artillerie, ça n'a absolument plus rien à voir.
Et pour ceux qui parlent, justement, de au-delà de ce que vous venez d'expliquer, d'utiliser les drones comme des moyens de diversion. Il y a certains qui ont, certains analystes, et je vous demande justement je parle sous votre contrôle, de le confirmer ou de l'infirmer, que le destroyer Moskva a été les systèmes de radar et de détection de projectiles ont été un peu désorientés par un drone avant qu'il ne soit visé par un missile Neptune.
C'est bien possible. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur la destruction du croiseur Moskva, mais c'est une hypothèse tout à fait possible que effectivement c'est une attaque conjuguée de plusieurs systèmes pour en fait désorienter les systèmes antiaériens du croiseur Moskva, puisque le croiseur Moskva, en fait, c'était un croiseur de protection, en fait. Donc il y avait des systèmes antiaériens dessus. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a pu être utilisé. Et dans ce cas, on parlerait plutôt du drone Bayraktar. Mais pour moi, encore une fois, ce qu'on a vu, le drone Bayraktar n'a pas été, au contraire, à mon avis, D'ailleurs, les réactions de la compagnie Bayraktar c'est le gendre d'Erdogan. Le fils Bayraktar a épousé une fille d'Erdogan. Donc c'est quelque chose d'important, on va dire. C'est un succès, c'est quelque chose de très prestigieux en Turquie. Et pour Bayraktar, c'est un mauvais. L'Ukraine, autant l'Azerbaïdjan a été une publicité vraiment extraordinaire, autant l'Ukraine, ça a vraiment été du black PR, comme disent les Américains, c'est-à-dire une mauvaise relation publique, parce que déjà on n'en parle plus. Hein. Vous regardez. Même les Russes ne montrent plus. Les Russes en ont détruit beaucoup. Les Russes en ont montré énormément, donc des modèles éventrés. Donc évidemment, ça fait une mauvaise publicité. Mais aujourd'hui, paradoxalement, pour revenir au Bayraktar, où des drones, les Russes ont un drone de ce type, alors qui n'est pas encore produit en série, qui s'appelle l'Orion. Aujourd'hui, les Russes pourraient déployer l'équivalent du Bayraktar. Parce que c'est eux qui ont la maîtrise, en fait. C'est eux qui ont la DCA, c'est eux qui ont la maîtrise du ciel. Ça leur coûterait moins cher et c'est moins risqué, parce que malgré tout, Kiev a toujours des systèmes aériens, de déployer des drones que de déployer des chasseurs. Mais c'est vraiment la révélation pour moi, ça a été la coordination. Et là-dessus, les Russes sont vraiment au niveau de la perfection en ce moment. Entre toutes ces unités, vous avez eu pas mal de documents filmés. On voit notamment les équipes d'assaut russes qui sont dirigés par un opérateur de drone qui dit non, attends, derrière la maison, ils t'attendent. Donc, en fait, le groupe de combat sait où est attendu. Donc, à tous les niveaux des troupes de mêlée, donc tankistes, enfin cavalerie en français, infanterie et surtout artillerie, évidemment, on en trouve partout. Et c'est vraiment la révolution. Et de ce point de vue-là, je pense qu'à mon avis, toutes les armées maintenant, dans toutes les sections de combat, enfin, moi, je suis un ancien.
En particulier, si on intègre de plus en plus la technologie de la miniaturisation, de telle façon à rendre le drone d'une taille d'une libellule, exactement, par exemple, et faire en sorte qu'il peut piloter toute une opération sans qu'il ne soit détecté.
Le problème de la taille d'une libellule, c'est que ça serait bien en combat en localité, mais après, pour observation, n'importe quel coup de vent, il va partir. Donc, il faut quand même quelque chose d'assez
robuste,
quelque chose d'assez costaud. Mais d'ailleurs, le Magic 2 donne de bons résultats. Il y a des kits qui permettent d'adapter, soit de larguer des grenades. Mais encore une fois, c'est pas ça que je retiens. Le plus intéressant, vraiment, c'est ça, et c'est cette coordination. C'est cette coordination. Et je pense qu'à terme, on aura des drones qui vont transmettre en temps réel directement au système d'artillerie. Enfin, tout ça va être, à mon avis, de plus en plus intégré. Alors après, ça peut commencer aussi à coûter cher. Vous voyez, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'a révélé le conflit ukrainien, c'est pourquoi est-ce que les drones iraniens sont bien, parce qu'ils coûtent pas cher. Mm-hmm. Quand vous êtes dans un combat de haute intensité, au bout d'un moment, vous arrêtez de jouer avec des gadgets. Il faut et l'avantage du Magic 2, je crois que c'est fabriqué en Chine, c'est qu'en fait, vous en achetez. Il y a pas de limite, en fait. Et enfin, pour finir sur les drones, on a aussi des choses intéressantes, c'est que on a vu apparaître, utilisés par les Ukrainiens, des Tupolev 149 Strige, donc qui sont des drones soviétiques de la fin des années 80. Et donc des drones à réaction en subsonique, hein. Et donc les Ukrainiens, alors bon, c'est quand même un truc assez vieux. Alors les Ukrainiens ont essayé d'en tirer un sur Kaluga, mais le truc est tombé. C'est quand même du vieux matériel, donc on imagine qu'ils ont dû mettre, Et donc ça, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement les Soviétiques étaient pas mal en avance dans ce domaine-là, et que avec la chute de l'Union soviétique, les années 90,
il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées.
Voilà. Et on peut dire que même du point de vue du drone, le conflit pour la Russie a démarré un an trop tôt. Parce que la Russie a développé toute une gamme de drones, y compris l'équivalent du Bayraktar, l'Orion, j'en ai parlé, mais ils sont pas encore en état d'être fabriqués en série, d'être utilisés. En revanche, le Landsat, le petit drone suicide électrique, là, s'est avéré une vraie réussite.
Avant de poser une question fondamentale pour la fin de cette première partie, je voudrais quand même vous poser une question sur la possibilité de fabrication de drones hypersoniques, c'est-à-dire qu'ils soient armés avec des armes de destruction massive tactique, de bombes atomiques tactiques, et qui pourraient faire des distances de milliers de kilomètres en quelques minutes. Est-ce que c'est une perspective que vous voyez possible? Et si c'est oui, comment elles peuvent influer sur un conflit de haute intensité?
Vous savez, on peut dire que déjà un Kinjal, qui est une arme hypersonique, c'est déjà un drone hypersonique, en fait.
Absolument.
Mais ouais. c'est un drone suicide. La question du drone hypersonique, c'est-à-dire si vraiment on fait un aéronef, c'est-à-dire que c'est un avion sans pilote, c'est comme ça qu'on dit en russe, biespilotné, sans pilote, qui puisse voler en hypersonique et revenir. Et pour l'instant, je pense pas que les technologies hypersoniques russes permettent de voler et de revenir, parce que la friction, le frottement du vent sur le, enfin de l'air sur les missiles hypersoniques, en fait, abîme la structure. Ce qui est pas gênant pour un missile, puisque le missile à la fin il est détruit. Mais si vous avez toujours pas, par exemple, d'avion hypersonique russe, c'est parce qu'il y a un problème d'usure des matériaux, qui, à mon avis, les Russes sont en train de travailler dessus. Hein. On finira par l'avoir. Mais avant d'avoir un drone hypersonique, il faudra d'abord qu'on ait un avion hypersonique piloté. Mais c'est tout à fait envisageable dans un avenir proche, même, je dirais. Oui, les Russes ont une telle avance dans ces technologies-là. Qu'on pourra à terme faire voler un avion hypersonique. Et donc, à partir du moment où un avion peut voler, un drone peut voler. Alors, vous voyez le Sukhoi 57, le dernier né de la famille Sukhoi, il est prévu pour être utilisé comme un drone, c'est-à-dire sans pilote. Et les Russes, comme les Français d'ailleurs, comme Dassault, comme les Américains, et les Chinois travaillent sur le tandem avion de chasse drone. Donc là, un drone beaucoup plus lourd. C'est plusieurs tonnes en fait, et qui sont donc en fait qui ça c'est pour l'instant c'est juste à l'étude.
C'est conçu, je crois, comme un moyen de protection de l'avion.
Akhotnik
ou chasseur.
Voilà, l'Akhotnik, c'est le russe, le celui de Dassault, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin tous les grands pays de grande technologie ont un projet comme ça. Mais ça, on parle du point de vue technologique, c'est complètement autre chose. Et c'est des drones qui eux-mêmes emmènent des missiles. Hein, donc,
D'accord.
Mais effectivement, on va vers de plus en plus de robotisation du champ de bataille.
D'accord. Maintenant, est-ce que ce qui s'est passé au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pourrait se répéter en Ukraine face à l'armée russe? Juste en faisant voler, par exemple, des centaines, voire des milliers de drones.
Non. Je pense que ceux qui pouvaient faire ça, c'était les Bayraktar. Je crois que la Turquie n'est plus très chaude pour en vendre parce qu'encore une fois, ça lui fait une mauvaise publicité. Et puis, c'est quand même 5 millions de dollars et ça tombe comme des mouches. Donc, je pense qu'on en verra. Il y en aura encore de temps en temps utilisé, peut-être dans une offensive ponctuelle tant pis pour les pertes, on avance. Mais je ne pense pas. Peut-être que les Russes en utiliseront. Alors, ce sera pas des Bayraktar, ce sera tester les leurs, notamment leur Orion. Les Américains refusent de livrer des drones Reaper. Donc, c'est des drones, eux, qui font plusieurs tonnes. Mais parce que c'est pareil, les drones Reaper, c'est bien pour bombarder l'Irak, l'Afghanistan, un pays qui n'a aucun système de défense anti-aérien sérieux. Ouais. Déployer des Reaper sur le territoire ukrainien, ils vont tomber comme des mouches. Évidemment, je sais pas qui fait les Reaper, je sais pas si c'est Lockheed Martin ou Raytheon ou General Electric, peu importe, ou Boeing, je crois que c'est Boeing. Ces drones-là, le fabricant n'a pas envie de les voir encore une fois éventrés. C'est une arme qui permet à des pays, on va dire de haute technologie avec des armées de taille significative, de déployer une supériorité aérienne à bas coût. Ça coûte moins cher de balancer un drone Reaper que de balancer un Rafale, un F-18. Et donc, c'est pour ça. Et en plus, comme ça consomme peu, ils sont conçus comme des planeurs. Donc, en fait, ça permet, par exemple, le Bayraktar, il reste 24 heures dans l'air. Oui. Le Reaper, ça doit être pareil. Alors qu'un avion de chasse ou un bombardier, surtout il peut pas planer comme on consomme un peu comme c'est le cas d'un drone. Donc il peut vraiment rester en survolant toute une zone pendant longtemps. Mais ça marche sur des territoires où vous pouvez pas vous faire détruire.
D'accord.
Ce qui était le cas, et encore partiellement parce que les Arméniens ont quand même réussi à détruire des Bayraktar.
Et pour ce qui concerne, parce que actuellement il y a beaucoup de pays, qu'ils soient occidentaux, la Russie, la Turquie, Israël, les États-Unis, la France, qui développent la technologie des drones SAIM, c'est-à-dire comme un escadron de drones qui peut avoir un système de centralisation des informations ou de centralisation des ordres de tir. Est-ce que vous pouvez indiquer à nos auditeurs à
quel... Il y a énormément de projets hein, dans ce sens, hein, ça se trouve. Mais pour l'instant, il y a rien d'accompli. En plus, il faut voir aussi que la lutte contre les drones, quand même, se développe elle aussi, notamment avec les moyens électroniques.
Les contre-mesures.
Sont très bons là-dessus. Ce sont doute même les meilleurs. Les Américains aussi ont livré des systèmes à l'Ukraine. Donc voilà. Et si vous voulez, c'est le problème de développer. Encore une fois, c'est le problème du coût du développement de ces armes et à qui elles sont destinées. On peut estimer qu'à terme, des armées comme l'armée américaine, l'armée russe vont réussir à brouiller les Magic 2. Donc de nouveau, on va avoir une escalade en fait dans l'utilisation de ce matériel. Et je pense que là, ça va jouer en faveur de la Russie, parce que la guerre électronique est un domaine dans lequel ils sont les meilleurs, c'est reconnu, y compris par Atlantique, et donc eux vont avoir une supériorité de brouillage vis-à-vis des drones ukrainiens que les Ukrainiens n'auront pas vis-à-vis des drones russes, même s'ils ont des capacités. Ça, j'ai pu le constater sur place, ça m'a été confirmé. Mais malgré tout, en fait, là aussi, je pense que le drone va surtout être quelque chose de décisif pour l'armée qui a déjà la supériorité. Et aujourd'hui, vous voyez sur le champ de bataille, ceux à qui profitent le plus l'utilisation des drones, c'est les Russes, parce qu'à un moment, c'est bien de faire de l'observation, mais il faut avoir l'artillerie pour tirer. Et aujourd'hui, le problème des Ukrainiens, c'est pas les drones, c'est d'avoir des munitions pour pouvoir utiliser l'information qui a été recueillie par ces drones. Et ça, c'est un problème que l'armée russe n'a pas du tout.
Bon, maintenant la dernière question sur, je crois que qui est fondamentale. Est-ce que d'un point de vue donc du conflit de haute intensité, on est toujours dans la même configuration où c'est le combat au sol qui fait la différence ou qui fait que il y a un aboutissement du conflit, on gagne ou on perd, ou vous envisagez peut-être un basculement dans les concepts avec la supériorité aérienne avec les avions, mais aussi avec les drones. Est-ce qu'il est possible? Parce que quand on regarde la campagne qui se fait autour de tout ça, alors que l'armée ukrainienne subit des pertes énormes d'un point de vue humain et sur les forces terrestres, et on continue à faire miroiter dans les médias qu'une victoire est possible. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, la Russie a gagné la guerre le jour où elle l'a déclenchée. C'est la question. C'est qu'est-ce qu'elle devra faire pour la gagner? Est-ce qu'elle devra mobiliser jusqu'à toute la classe d'hommes en âge d'être mobilisée, c'est-à-dire 25 millions de soldats, ou un peu moins, ou un peu plus, etc. Donc c'est ça la question qui s'est posée dès le début, c'est qu'est-ce que la Russie va devoir faire pour l'emporter? Si Kiev, si les Occidentaux, on l'a su notamment avec l'interview du Premier ministre Bennett israélien, qui a organisé les premiers pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens, les Ukrainiens avaient très bien compris qu'ils avaient perdu la guerre, que quoi qu'il arrive, ils perdraient la guerre. Et donc, ils étaient prêts à négocier. Et c'est l'OTAN qui a poussé l'Ukraine à tenir bon en disant « on va vous aider, de toute manière, on va mettre des sanctions », comme avait dit Viktor Yanoland, comme ils n'en ont jamais vu. Et ces sanctions provoqueront l'écroulement de l'économie russe. Je vous renvoie à Bruno Le Maire. Et donc, les gens descendront dans la rue. Et donc, renverseront Vladimir Poutine, Navalny sera président, la Russie sera démembrée, etc., etc. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est une méconnaissance profonde de l'économie russe. Et ce qui fait que les Russes ont compris au mois de juin que malgré la perte de Mariupol, malgré la perte de Lysychansk, malgré la perte de Severodonetsk, la guerre allait continuer. Et donc, ils ont changé de format, changé de stratégie. Ils sont passés dans une stratégie d'user l'armée ukrainienne. Surtout que ce qu'ils ont pu observer, c'est que toutes les contre-attaques qui avaient été menées par l'armée ukrainienne leur avaient coûté très cher en vie humaine, de manière épouvantable. Et c'est pour ça qu'au même moment, vous avez une propagande ukrainienne qui projetait sur l'armée russe ces résultats catastrophiques, en expliquant les pertes, etc., ce qui était complètement faux. Donc, il y a eu de l'intoxication, les Occidentaux se sont auto-intoxiqués, sans comprendre ce que les Russes faisaient, c'était qu'en fait, ils s'étaient mis dans un mode de ce que j'appelais la broyeuse. Et ils se sont mis à broyer, littéralement, toutes les forces ukrainiennes sur toute la ligne de front, parce qu'ils avaient cette supériorité de puissance de feu qui a, pendant jusqu'au mois de novembre, a compensé leur infériorité numérique. Et donc, avec cette puissance de feu, ils ont fait baisser la supériorité numérique kievienne, enfin otano-kievienne, qui a permis d'ailleurs à les deux contre-offensives ukrainiennes, enfin surtout la première, la deuxième, c'est pas vraiment une contre-offensive. Enfin, il y a eu des contre-offensives dont aucune n'a fonctionné. C'est plutôt parce que là, la Russie s'est retirée finalement. Mais en fait, la supériorité numérique, ils étaient à 8 contre 1 dans la contre-offensive dans la région de Kharkov. Les Russes ont vu qu'en fait, ils lésinaient pas sur les moyens, que le matériel humain n'était pas un problème pour Kiev. Et donc, ils ont décidé d'utiliser leur puissance de feu pour détruire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils continuent à faire. La différence, c'est que maintenant, eux, ils attaquent. Donc, la broyeuse avance sur toute la ligne de front, doucement, sûrement. Dès que ça coince, on s'arrête, artillerie. On avance, on recule. Mais comme on a des munitions de manière illimitée, ce qui n'est pas le cas de Kiev, eh bien, en fait, on en profite et ils sont en train de broyer l'armée ukrainienne. Et je ne vois pas ce qui pourrait, c'est même pas moi qui le dis, c'est le colonel Kempf qui l'a dit il n'y a pas longtemps, c'était sur LCI, je crois. Même le général Yakovlev l'a dit, on voit pas comment l'Ukraine pourrait gagner aujourd'hui. En fait, c'est
à votre avis, jusqu'à nouvel ordre, c'est les forces terrestres qui gagnent guerre. Mais
alors voilà, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les avions ukrainiens ne volent pas, sauf au ras du sol pour l'attaque au sol, comme les avions russes. Ça, c'est tout à fait compréhensible. La DCA russe est la meilleure au monde. Vous avez tout un système échelonné. Pour chaque drone, avion, vous avez un système adapté. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Donc, que les Ukrainiens ne volent pas et que d'ailleurs les Occidentaux ne veuillent pas donner d'avions parce qu'ils considèrent que ça servira à rien, sauf des avions d'attaque au sol, c'est tout à fait compréhensible. En revanche, ce qu'on a observé aussi, c'est que les Russes ne survolent pas le territoire ukrainien, sauf encore une fois les avions d'attaque au sol qui volent très bas et qui échappent au radar. Pourquoi ? Parce qu'il suffit à Kiev d'avoir quelques systèmes anti-aériens efficaces. Et les Russes n'ont pas envie de perdre une dizaine de Sukhoi 35, de Sukhoi 34, donc voilà. Et donc, ce qui fait que vous n'avez pas vu, par exemple, se déployer au-dessus du sol, ce qu'on a vu en Syrie, au-dessus du territoire ukrainien, des Tupolev, des gros bombardiers, des Tupolev 122, des Tupolev 95, des Tupolev 160, parce que le risque est trop gros. Parce que l'Ukraine a encore des vieux missiles S-300 ou S-200 qui feront l'affaire sur des avions comme ça. Il y a une chance sur 10 que ça tape, mais il y a une chance sur 10. Et les Russes n'ont pas envie de perdre un Tupolev 160. D'accord. Donc, on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, avec un minimum de systèmes anti-aériens, mais performants, en fait, le risque est élevé. Le risque est élevé. Et c'est la même raison pour laquelle je pense qu'il n'y aura pas de chasseurs bombardiers envoyés par les Occidentaux. Parce que, en fait, la chance de survie par la DCA russe est quasiment nulle.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur de Stratpol. En résumé de cette première partie, il est important, selon mon invité, d'avoir à l'esprit que cet aéronef sans pilote reste une arme d'appoint. Certes, il peut jouer un rôle important dans la reconnaissance, l'orientation et l'attaque des défenses ennemies, n'ayant pas de grands moyens antiaériens, mais en aucun cas être un moyen stratégique à même de décider l'issue d'un conflit de haute intensité. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Dans le bassin du lac Tchad et au Sahel, les Américains ont mis en service depuis 2014 des bases de drones au Niger, au Cameroun et au Tchad pour lutter contre la secte islamiste Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes terroristes. La France, quant à elle, a marqué également son empreinte dans ces régions à travers son dispositif militaire Barkhane au Sahel, dont Macron a annoncé la fin en novembre 2022, Elle a déployé depuis août 2014 des drones pour lutter contre le terrorisme dans une zone vaste comme l'Europe. Prenant le relais de l'opération Serval lancée en janvier 2013 pour libérer le nord du Mali, tombée aux mains de groupes armés, l'opération Barkhane s'articule autour d'un partenariat avec les 5 principaux pays du Sahel pour neutraliser les groupes terroristes. Elle a été abandonnée par le Mali. Comment évaluer l'efficacité des drones utilisés dans ces régions d'Afrique subsaharienne dans la lutte antiterroriste? Comment faire du drone un moyen de développement économique et social, notamment en Afrique subsaharienne, qui s'étale sur des espaces désertiques énormes?
L'utilisation de ces drones contre un ennemi qui ne peut pas s'en protéger, soit du point de vue de renseignement, soit même du point de vue militaire, si jamais ce sont des drones armés, c'est la bonne utilisation. Et là, vous pouvez effectivement déployer des drones du type Bayraktar, parce que en bas, en dessous, il n'y a pas de système antiaérien qui permette de les neutraliser. Il faut bien se rendre compte qu'un drone Bayraktar, ça vole à 10 000 mètres. Donc, vous le voyez même pas, en fait, quand il vole au-dessus de vous. Et même les drones, les petits drones Magic qu'on peut acheter dans le commerce, quand ils sont à 2000 mètres, vous pouvez à la limite peut-être l'entendre, mais le voir sûrement pas. Mais pour parler également du Sahel, ce qui pourrait devenir aussi intéressant, c'est si jamais les unités terroristes dont vous parlez s'équipent également de drones. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut assister, y compris de ces drones magiques qui vont leur permettre d'avoir une capacité de reconnaissance qui jusqu'à présent leur était interdite. Donc ça, effectivement aussi, ça va jouer à mon avis dans les guerres à venir.
D'accord. Et dans cette situation où l'on entend, il y a beaucoup de rapports et d'informations qui parlent d'acheminement de combattants de Daesh ou d'Al-Qaïda qui ont perdu la guerre donc en Syrie et en Irak vers cette région-là du Sahel, notamment dans la région qu'on appelle des trois frontières partagées entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, justement, l'arrivée de gens terroristes et djihadistes très aguerris au combat et de très grandes connaissances en termes de guérilla, si l'on rajoute, comme vous le venez de le soulever, une capacité de maîtrise de cette technologie de drone, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui peut vraiment amener de sérieux problèmes au pays de
l'Israël? Bien sûr que l'arrivée de ces combattants aguerris va être quelque chose qui va devoir être pris en compte. L'utilisation également par ces combattants aguerris de technologies civiles, mais qui peuvent être d'un emploi militaire. Donc, je parlais des drones Magic 2. Ça, c'est quelque chose qui va être, à mon avis, déterminant. Et j'espère que les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens sont prêts à s'adapter à ce genre de menace. Alors, l'avantage, c'est qu'il y en a notamment qui travaillent avec Wagner. Et s'il y a bien aujourd'hui une société militaire privée qui est au fait de ces avancées technologiques et surtout de leur emploi sur le champ de bataille, c'est bien Wagner. Et je pense qu'il va y avoir effectivement toute une expérience, un retour d'expérience qu'on appelle les RETEX, soit du côté ukrainien, soit du côté russe, qui va être extrêmement précieuse pour pouvoir affronter précisément ces matériels. Sachant que ces matériels, encore une fois, si vous êtes une armée régulière, normalement, vous pouvez vous doter de moyens de brouillage pour faire les Russes. On a vu Kalachnikov a produit une espèce de fusil à ondes. Il y a l'équivalent côté américain également, donc côté ukrainien. Et donc, mais ça, c'est évidemment que c'est un aspect du combat de demain qui doit être intégré. Et j'espère que notamment l'armée française ou l'armée, je sais pas, algérienne, là, est en train de l'intégrer au sein de ses unités. Ça veut dire que dans une section de combat, vous avez un pilote de drone. Mmh. Vous avez 2-3 personnes qui sont capables de piloter le drone et de diriger les opérations. Donc, faut pas un idiot, vous voyez, de diriger les opérations, de diriger les feux. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, aujourd'hui, ça doit bouillonner dans toutes les armées et ça doit faire vraiment partie du combat. On ne pourra pas faire sans. Et également de tout ce qui est utilisation des forces spéciales, si vous voulez, notamment tout ce qui est combat en localité, même pour attraper un forcené, il y a Vous faisiez allusion au micro-drone de la taille d'une libellule. Ça, c'est des choses qu'on va voir arriver, et également des drones terrestres. Donc, ils sont plutôt des robots, on parlera, plutôt que de drones. Et donc, là, les Russes sont en train de déployer pour essai des drones terrestres, des espèces de petits chars avec des moyens de feu. Ils en ont déployé en Syrie pour les tester. Ça n'a pas été terrible, d'après ce que j'ai entendu. Mais là, depuis, ils ont évolué. Donc, on va avoir effectivement de plus en plus de robotisation du champ de bataille, en fait.
Est-ce que, Monsieur Moreau, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire de mettre en place une réglementation concernant la commercialisation des drones, y compris civils, qui soit stricte pour faire en sorte que, justement, ce genre de drone ne tombe pas entre les mains de gens qui ne voudront pas du bien à leur semblable?
Écoutez, c'est un peu comme la réglementation de l'arbalète au Moyen-Âge. Vous savez que l'Église voulait interdire l'arbalète parce que c'était une arme tellement meurtrière et surtout qui permettait à n'importe qui d'avoir une arme mortelle et efficace entre les mains. Il n'y a même pas besoin d'apprendre à tirer à l'arc. Mais ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'il y aura effectivement des législations qui seront prises. Notamment, vous voyez ça autour des, surtout, je dirais, de là où le drone peut être utilisé. Par exemple, évidemment, tout ce qui est autour des centrales nucléaires, des objets stratégiques, des bases, etc. Là, je pense que c'est déjà, je pense qu'il y a déjà une réglementation et qui peut coûter assez cher à celui qui enfreint cette réglementation. Sur la vente, il le faudrait, je dirais presque. Hein, c'est un peu comme une détention d'armes. Mais je pense que c'est quand même difficile. Je pense que c'est quand même difficile. Et puis, il y a toujours des pays qui réussiront à en importer. Vous aurez du marché noir. Il vaut mieux réglementer un minimum plutôt que d'interdire. Interdiction, ça marche rarement.
Non, c'est pas l'interdiction, mais une réglementation.
Ouais, mais une réglementation, oui. Mais je pense que dans pas mal de pays, elle est déjà en place. Hein. Ouais. J'avais assisté à une manifestation à Moscou à l'époque de Navalny. J'étais allé voir un observateur. Ils avaient essayé de déployer un drone et il y avait un membre des forces de l'ordre qui était arrivé avec son canon à onde, là. Le truc était descendu tout de suite. Mmh. Et donc voilà. Et le déploiement de drone est interdit justement à ces occasions-là. Mais oui, ça va légiférer, c'est sûr. C'est sûr, c'est évident. Et même, enfin, aujourd'hui, vous combattez par exemple dans des quartiers des trafics de drogue. J'imagine que les dealers se sont déjà dotés de drones qui leur permettent de surveiller les alentours et de voir si la police débarque. C'est ça. À leur place, c'est ce que je ferais. Donc, effectivement, il va falloir. L'utilisation des drones est quelque chose qui va devoir être pris en compte, comme par les forces, non seulement par les armées, mais également les forces de l'ordre. Elles vont pouvoir les utiliser, mais qui en même temps vont devoir les combattre. Parce que c'est une arme extrêmement précieuse pour des terroristes, pour des dealers, pour des malfrats, tout est possible.
D'accord. Bien, maintenant nous allons passer aux applications civiles de drones, notamment dans l'Afrique subsaharienne et sahélo-saharienne. C'est un territoire qui est immense, mais généralement désertique, qui contient des espaces absolument désertiques. Est-ce que ça ne serait pas très judicieux, justement, de penser à des drones qui pourraient servir dans le renforcement d'un système de santé, par exemple le transport de médicaments, le transport d'un protocole de soins? Ce sont des régions comme l'Afrique du Nord, par exemple, qui subissent la sécheresse et un stress hydrique très sévère et où le risque d'incendie est quand même très, très important. Est-ce qu'une technologie style ASIM ou autre pour créer des centres de contrôle ou de lutte anti-incendie, est-ce que ce genre de choses peut-il apparaître justement dans la technologie des drones?
En fait, ça existe déjà. Hein. J'ai vu les Américains sont en train de faire des tests sur un transporteur, un drone transporteur qui peut transporter des marchandises. Donc, ça peut être utilisé bien sûr par l'armée, mais ça peut être utilisé pour effectivement transporter des documents, des médicaments, évacuation aussi,
hein, évacuation aussi.
De blessés, de civils. Oui, je pense que l'utilisation des drones va aller en s'étendant, et même pas que dans le désert. Vous voyez, il y a plusieurs compagnies en Asie, aux États-Unis aussi, en Russie aussi, j'ai vu, qui travaillent sur des drones taxis. Vous pourrez prendre un taxi qui vous emmènera par la voie désert à votre destination. Donc, ça va ne faire que se développer. Et effectivement, il y a une utilisation dans les zones reculées qui, à mon avis, a un bel avenir devant elle. C'est certain.
Et pour la lutte anti-incendie, c'est-à-dire que faire des drones de style militaire et qui peuvent transporter des bombes anti-incendie de telle façon à intervenir rapidement, même avec des drones supersoniques, rapidement ou avec des centres de contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Supersonique, je n'y crois pas trop, parce qu'en fait, pour intervenir sur un incendie, il faut quand même avoir une capacité d'emport impressionnante. Cela dit, vous pouvez transformer en drone, techniquement, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible, un avion, un Canadair. Par exemple, alors c'était toujours dans un domaine militaire, mais les Azéris ont, pour tromper la DC arménienne, ont utilisé des Antonov 2, c'est des vieux biplans soviétiques, j'ai sauté en parachute de ce genre d'avion, donc ça décolle sur de très courtes distances, ça vole à la vitesse d'un camion, et donc en fait ça n'a plus vraiment d'utilité, et en fait ils ont mis un système de télécommande et ils les ont envoyés au-dessus des lignes arméniennes. Donc les Arméniens utilisaient leur DCA pour descendre ces biplans et du coup révélaient leur position, et c'est là que les Bayraktar arrivaient. Donc transformer un avion en drone, c'est tout à fait possible. C'est vous savez, un Boeing ou un Airbus 300 des dernières générations, il a quasiment pas besoin du pilote pour voler et décoller, hein. C'est tout est automatisé, et ça effectivement, ouais, c'est quelque chose auquel il y a aucune raison de ne pas pouvoir le faire, et effectivement ça économise ça limite les risques que prennent les pilotes, c'est une solution tout à fait envisageable.
D'accord. Le mois de juillet de cette année, et il va y avoir le sommet Russie-Afrique. Et beaucoup de, enfin, au moins les plus grandes économies africaines comme l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui est déjà membre des BRICS. Donc, ces trois pays, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, aussi aspirent à intégrer ce groupe et être le moteur de cette coopération Russie-Afrique. Est-ce que le transfert de technologie dans ce domaine de drones peut-il être ouvert aux Africains? Parce que les Africains, généralement, on ne leur laisse pas trop de chance pour avoir de transfert dans ce genre de moyens aériens.
Ça dépend du niveau de transfert. Déjà, il faut voir une chose, c'est que par exemple, la Russie, elle fabrique pas des drones Magic. Hein. Tout le monde, comme tout le monde, ils les importent de Chine. Après, sur effectivement des technologies de drones comme l'Orion, le Lancet. Je suis pas persuadé que les Russes aient envie d'exporter leur technologie. Ils ont envie de vendre leur matériel, exporter la technologie, faire une production sur place, peut-être dans le cadre d'une grosse commande. Mais par exemple, vous voyez un domaine extrêmement sensible qui est celui des réacteurs, d'avions à réaction. Hein. Mm-hmm. Les Russes ont toujours refusé de produire sous licence en Chine. Et les avions de chasse chinois volent souvent sur des vieux moteurs soviétiques qui sont capables de produire, mais pour avoir des moteurs russes dernier modèle, il faut qu'ils achètent des avions russes dernier modèle. Donc comme par exemple les Sukhoi 35, la Chine tout d'un coup, alors qu'elle annonçait la production d'avions qui sont pas mal, hein, d'ailleurs technologiquement c'est très bien, mais il y a le domaine de la propulsion. Il y a trois pays qui sont capables de propulser, de fabriquer des moteurs à réaction. C'est la Russie, les États-Unis et la France, en gros. D'accord. Donc avec Snecma. Donc c'est vraiment un savoir-faire assez unique, et effectivement une industrie comme la Chine aimerait bien l'avoir. Mais faut pas sous-estimer les Chinois. Ils avancent, mais c'est comme les semi-conducteurs. Quand vous avez 10 ans de retard, avec le temps, le retard a plutôt parce que les autres restent pas l'arme au pied, donc le temps a plutôt à se creuse plutôt que se remplit, à moins d'une rupture technologique, hein, ce qui est toujours possible. Mais globalement, donc il y a des choses qui sont tout à fait qui peuvent être transmises. Cela dit, pour les pays africains, je pense pas que la Russie soit le partenaire idéal en matière de drones. On va voir. Bon, il y a le Landsat, mais bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas quelque chose de très compliqué. Mais par exemple, l'équivalent du Bayraktar, c'est plutôt la Turquie qui serait un partenaire pour l'Afrique, je dirais.
D'accord.
Sachant que, comme je l'ai dit, ce sont des sous-ensembles, il n'y a pas grand-chose de turc. Mmh. L'avantage de l'Orion, c'est que les Russes, ils ont fait un truc 100% russe. Pareil pour les Chinois. Donc, à mon avis, aujourd'hui, si un pays qui voudrait produire sur place, au moins commencer à assembler sur place, moi, je m'adresserais en tant que pays africain, je m'adresserais à la Turquie, à l'Iran, pourquoi pas. Je m'adresserai à la Chine, la Russie, comme la France a pris du retard dans les drones. Pour l'instant, l'Orion, c'est juste un prototype. On l'a pas vu, il a pas été déployé sur le champ de bataille. Donc, la Russie en drone terrestre, à mon avis, pourrait représenter un partenariat intéressant. On va voir ce que là ils ont déployé il y a pas longtemps leur drone de combat. Leur robot on va voir ce que ça va donner. Mais dans ce domaine-là, je pense que les Africains devraient chercher ailleurs. Et pourtant, je suis très russophile. Mais on verra. Après, les carnets de commandes de l'armée russe du complexe militaire-industriel russe sont pleins. Il y a beaucoup d'argent. Là, c'est pas ce qui manque en Russie. Donc, si ça se trouve, on va assister à un saut qualitatif. Hein. Faut pas sous-estimer les Russes. Mais en l'état, c'est plutôt les Russes ils sont en train d'aller chercher à droite à gauche, des choses.
Bien. Et pour une dernière question, Monsieur Moreau, dans le contexte géopolitique actuel est très très en mouvement, avec toutes les plaques tectoniques qui se tapent d'un côté comme de l'autre depuis notamment le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Est-ce que on pourrait penser que ce prochain sommet Afrique-Russie serait un sommet exceptionnel, notamment en termes de propulsion de coopération, mais aussi en termes d'un nouvel espace de respiration pour l'Afrique, si, encore une fois, comme vous l'avez déjà dit, les Africains arrivent à saisir la chance? Même avec
j'en suis persuadé. Déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que même si j'aime bien Emmanuel Todd, mais il disait il y a pas longtemps, la guerre en Ukraine, c'est déjà une guerre mondiale. Non, c'est une guerre de l'Occident contre la Russie. Le reste du monde, soit ne se sent pas concerné, soit est même plutôt favorable à la Russie. C'est-à-dire 80% de l'humanité. Et donc, je pense que l'Europe est en train de devenir une zone d'instabilité et que, l'économie mondiale va chercher des zones de stabilité. Et comme vous le disiez, je crois aux nations. Donc, j'aime pas trop quand on parle de l'Afrique, mais je pense qu'il y a des nations africaines continent africain, ouais. Donc Afrique du Nord et Afrique noire, qui ont leur épingle à tirer du jeu parce qu'elles ont des ressources. Bah, c'est le cas par exemple de l'Algérie. Elles sont neutres justement dans ce conflit et quoi qu'il arrive de ce qui va sortir de ce conflit, elles n'y auront pas pris part. Donc elles seront devenues de facto des pôles de stabilité. Et surtout, la Russie par exemple, il n'y aura pas de retour en arrière, si vous voulez. La Russie va longtemps considérer que les Occidentaux ne sont pas des partenaires fiables. Le blocage de la moitié des réserves de change russes est tout simplement un suicide pour l'euro, mais même à terme pour le dollar. J'ai publié il n'y a pas longtemps une émission là-dessus pour Russia Today sur la dédollarisation. Et donc, en fait, il va y avoir des alternatives pour développer les ressources naturelles, pour les commercer en monnaie locale, des accords entre États sur le fondement, comme plus il y a un progrès technologique, notamment des monnaies numériques. Rien n'empêche, par exemple, désormais, entre l'Algérie et je prends l'Algérie puisque c'est le grand partenaire économique en Afrique de la Russie, notamment dans le domaine de l'armement. Mais rien n'empêche désormais l'Algérie de commercer directement soit en rouble, soit en dinars, c'est ça?
En dinars, oui.
en dinars, soit dans une monnaie, un panier commun de monnaie, soit une monnaie numérique sur laquelle on est d'accord. Soit... Donc, il va y avoir vraiment un développement des accords bilatéraux, du commerce bilatéral. Et surtout, je pense, et c'est pour moi, c'est ça l'avenir. Et j'aimerais d'ailleurs que la France ait cette approche vis-à-vis des États et des nations africaines, c'est-à-dire d'égal à égal, sans complexes post-coloniaux, de devoir quoi que ce soit, etc., etc. On est deux, et c'est très bien, c'est ce qu'on voit, c'est la grande force de la Russie, mais même de la Chine avec les nations africaines, même si les Chinois sont pas des tendres. Quoi qu'il arrive, ils s'adressent à des États. Et ils n'arrivent pas en train d'essayer de se mêler de ce qui se passe à l'intérieur de l'État. C'est le problème des citoyens algériens, ce qui se passe en Algérie. C'est pas le problème de la France. Et c'est pas le problème des Chinois. Et les Chinois ne veulent pas s'en mêler. Et les Russes, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez. Nous, écoutez, on a des trucs qui vous intéressent. Vous avez des choses qui nous intéressent. Et si on commençait à échanger? C'est le doux commerce, vous voyez, pour revenir à l'époque des Lumières.
Non, c'est-à-dire que, juste, on est bien d'accord sur la question de la souveraineté des États-nations, mais
c'est ça.
Je voulais juste, c'était par rapport à la réforme qui a été proposée pour le Conseil de sécurité et qui a été soutenue par la Chine et par la Russie, celle d'offrir à l'Afrique un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. C'était par rapport à ça.
Ben, si vous voulez, oui, le problème, c'est que moi, j'aime pas. C'est quoi offrir un siège à l'Afrique? C'est pas l'Europe qui a un siège, c'est l'Angleterre, la France qui ont un siège permanent. La question, c'est à quelle nation africaine on va offrir un siège? Parce qu'il est normal qu'effectivement, des nations de ce continent. Mais ça va être les nations qui ont un poids significatif. Et effectivement,
l'Afrique du Sud, par exemple.
Mm-hmm. L'Afrique du Sud. Mais je suis pas persuadé que les Occidentaux acceptent. Parce que si l'Afrique du Sud devient membre permanent, comme c'est un pays, on va dire entre guillemets, non aligné sur l'Occident, ça va faire un rival de plus, en plus de la Chine, en plus de la Russie. C'est clairement, ils sont dans les BRICS, ça va être clairement un allié. Donc je pense pas que Washington l'autorise.
D'accord.
Honnêtement, moi je suis favorable. Je trouve pas forcément droit de veto parce que sinon il y aura plus rien qui va fonctionner. Mais siège permanent, il devrait y avoir le Brésil, il devrait y avoir l'Afrique du Sud. Si on prend un pays du Maghreb, bah, je crois qu'économiquement le premier c'est l'Algérie, mais là aussi ça posera un problème parce que avec votre rivalité avec le Maroc, les Américains laisseront pas faire puisque eux au contraire ils assoient leur influence dans le Maghreb en s'appuyant sur le Maroc. Donc ça, vous voyez, c'est mais l'Afrique du Sud, le Brésil, c'est évident que ces pays-là, l'Inde.
Ouais.
C'est évident que l'Inde devra avoir un siège permanent. Enfin, c'est le pays le plus peuplé au monde. C'est une économie qui court derrière la Chine. Hein. Mais ça, c'est pareil. Est-ce que les Occidentaux vont avoir... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la rencontre entre Liz Truss quand elle était Premier ministre et avec le ministre des Affaires étrangères indien qui lui a sorti en face. Il faut que l'Europe comprenne que les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde, mais que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe. Donc, il y a quand même, c'est plus qu'une volonté d'émancipation, c'est-à-dire c'est acté que l'Angleterre n'a plus d'influence sur l'Inde et que l'Inde doit se comporter avec l'Angleterre comme la Chine avec l'Algérie, c'est-à-dire que ce sont deux États-nations qui discutent entre égaux. Voilà. C'est un principe westphalien.
Pour rappel,
le système westphalien des relations internationales a été établi en Europe sur la base de la paix de Westphalie. Cet accord a mis fin à la guerre de 30 ans, qui s'est terminée en 1648. L'un des principes les plus importants de ce système est celui de la souveraineté nationale. Cela signifie que l'État a la pleine autorité sur son territoire et détermine ses propres politiques intérieures et extérieures. En outre, les États souverains ont été proclamés égaux.
Est-ce que la Chine aussi laissera l'Inde avoir un siège de membre permanent?
D'accord.
C'est pas... C'est certain, vous voyez, donc...
Comme diraient certains, ce n'est pas encore gagné.
C'est une nécessité. Aujourd'hui, le Brésil, je pense que ce serait faisable. L'Afrique du Sud, ce serait faisable, mais il faudrait quand même tordre le bras des Américains.
D'accord.
Parce que le Brésil, pareil, le Brésil, que ce soit Lula ou Bolsonaro, même si Lula s'entend bien avec Biden, sur le conflit ukrainien, ils ont envoyé l'Ukraine et la Russie dos à dos. C'est un grand échec de la diplomatie américaine. Voilà.
Je vous remercie, Monsieur Moreau, et j'espère vous retrouver dans un autre entretien pour un autre sujet.
Avec plaisir.
Merci beaucoup
pour votre invitation.
Merci.
C'était Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur de Stratpol. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Dans le cas de la lutte antiterroriste au Sahel, étant donné que les organisations djihadistes qui y sont actives ne sont pas dotées de moyens antiaériens, il est évident que les drones, notamment ceux dotés de moyens de frappe importants, sont capables d'être une très forte plus-value dans ce genre d'opération, affirme Xavier Moreau à Radio Sputnik Afrique. Néanmoins, il faut aussi prendre en garde, selon lui, à la possibilité que ces mouvements terroristes et djihadistes puissent se doter de drones commerciaux à bas prix pour des fins de surveillance et de reconnaissance, ce qui pourrait compliquer la tâche aux forces militaires qui les combattent. Par ailleurs, pour M. Moreau, à l'image de ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de régions dans le monde, la technologie des drones peut également être d'un très grand intérêt pour les pays africains. Ces derniers n'ont pas les moyens de se doter d'avions ou d'hélicoptères dans les opérations de sauvetage, de transport, de médicaments, de courriers et de fret légers, étant donné que ces espaces, comme le Sahel, sont très vastes, désertiques et sous-équipés en infrastructures de transport. Les drones peuvent également être intégrés dans des systèmes de surveillance et de lutte contre les incendies de forêt qui ravagent des milliers d'hectares pratiquement chaque année dans les pays de l'Afrique du Nord. Dans le cadre de la coopération russo-africaine, notamment à l'approche du sommet Russie-Afrique de juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, Xavier Moreau estime que cet événement aura une empreinte particulière dans le contexte mondial né de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. On a vu les pays africains travailler à leur émancipation vis-à-vis du diktat du bloc occidental pour ouvrir des espaces nouveaux de coopération avec Moscou, mais aussi avec la Chine, l'Inde et le Brésil. Pour lui, les BRICS vont certainement jouer un rôle important dans l'épanouissement des pays africains, y compris dans les technologies des drones. La Chine, de même que l'Iran et la Turquie qui aspirent à intégrer les BRICS, peuvent leur fournir une aide précieuse avec un réel transfert de technologies. À moyen terme, la Russie pourrait également rejoindre ce club en proposant toute une nouvelle panoplie de drones de nouvelle génération, aussi bien dans le domaine militaire que civil. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.